Nous voulons en effet ouvrir cette parole du Seigneur. Cela fait depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, que nous étudions ensemble le grand condensé d'un enseignement de Jésus que l'on appelle le Sermon sur la montagne. Et nous sommes arrivés sur la fin de ce grand texte, cette grande charte de Jésus pour ceux qui veulent le suivre. Et Jésus passe à certaines conclusions, certaines invitations en relation avec ce qu'il vient de dire. Et je vous invite donc à lire dans Matthieu chapitre 7, deux versets simplement, les versets 13 et 14. Matthieu 7, les versets 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Jusqu'ici, notre lecture. Jésus aurait-il fait un bon commercial, un bon recruteur, un bon motivateur ? Incontestablement, sur ce terrain, Jésus a développé une approche assez peu conventionnelle lorsqu'il a appelé à vivre selon la voie qu'il proposait. Aujourd'hui, très certainement qu'un conseiller en communication lui aurait fourni les éléments de langage qui lui auraient permis d'un peu mieux assurer la promotion du produit évangile. Le résultat aurait été très différent de ce que nous venons de lire. Un bon commercial rend son produit attrayant, fait envie, met en valeur les bons côtés de ce qu'il présente, minimise les inconvénients. Jésus, lui, parle d'une porte étroite, d'un chemin resserré pour qui cherche la vraie vie. La vie, la vraie, ne se propose pas chez Jésus avec des discours de bonimenteurs de foire ni de marchands de tapis prêts à tout négocier. Ces mots sont exigeants, plutôt sévères même. Certains les diraient intransigeants. Jésus aurait-il fait un bon recruteur, un bon commercial, un bon motivateur? Si on le juge d'après les résultats, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Des millions et des millions de personnes ont emprunté le chemin qu'il proposait. Si on le juge à sa longévité, il est plutôt bien classé. On parle de son offre aujourd'hui encore. Tiens, même ici, elle n'est pas périmée. Mais nous le savons, les critères décisifs ne sont pas ceux-là, le simple résultat, la simple pérennité. L'important, c'est d'être véridique, d'être digne de confiance. Jésus parle du chemin de la vie. Et le sujet est trop important pour se prêter aux artifices ou à la séduction. Boniment s'abstenir, c'est de vérité dont on a besoin. Prenons le temps d'abord, en examinant cette parole de Jésus, de bien recevoir l'image que développe Jésus. Son propos est assez clairement structuré. Il parle de deux chemins distincts, qui désignent deux manières de tracer sa trajectoire de vie. C'est ça ce qu'on dit quand on parle de deux chemins, deux manières de tracer sa trajectoire de vie, deux manières de conduire sa vie. Chacun de ces chemins est ouvert par une porte. Il faut penser ici à aux portes des villes plutôt qu'aux portes d'une maison. Aux deux chemins correspondent donc deux portes. Ces chemins aboutissent aussi à deux destinations opposées. Jésus désigne l'une d'elles comme la perdition, l'autre comme la vie. Et à ces deux chemins correspondent deux groupes de personnes selon le chemin que l'on choisit. Voilà comment se structure la pensée de Jésus. C'est très clair, c'est très net. Nous sommes, il faut le reconnaître, assez loin de ce que l'on entend aujourd'hui. Il est clair pour tout le monde aujourd'hui qu'il existe de multiples trajectoires, pas deux chemins, mais de multiples trajectoires, chacun à la sienne, quel que soit le domaine que l'on considère. Le travail, la vie sentimentale, ce en quoi on croit, la manière dont on croit. Face à cette diversité, le maître mot est « chacun sa route, chacun son chemin ». Autre pensée très prisée, « tous les chemins se valent ». L'important est de suivre un chemin qui a du cœur. Si vous tapez sur Internet « tous les chemins qui se valent », c'est cette citation que vous trouvez, mais partout, partout. C'est un monsieur qui s'appelle Carlos Castaneda, qui était anthropologue, chamaniste, etc. Un peu brésilien, un petit peu péruvien et américain au bout du compte. Et décédé maintenant. C'est entendu pour tout le monde, aujourd'hui, que toutes les religions aussi se valent. Qu'elles sont toutes des tentatives humaines de donner sens à sa vie, de se représenter le divin plus ou moins adéquatement, et de tenter de s'y relier comme on peut. Et c'est vrai que la diversité éclate quand on regarde le monde, la diversité explose, la diversité saute aux yeux, c'est indiscutable. Mais reconnaître et apprécier la diversité ne veut pas dire que tout se vaut. Quand on dit « tous les chemins se valent, l'important est de suivre un chemin qui a du cœur », on dit que tout se vaut. Et affirmer que tout se vaut, c'est en fait s'interdire tout jugement de valeur, toute différenciation entre ce qui est bien et ce qui serait mal, entre ce qui est constructif et ce qui est destructeur, entre ce qui est utile et ce qui n'apporte rien. Si tout se vaut, comme on le dit, tous les chemins se vaut, on ne peut plus rien dire de quoi que ce soit. C'est l'abdication de tout jugement de valeur, mais aussi de toute responsabilité, il faut bien le noter. Si tout se vaut, ça veut dire aussi que l'on peut légitimement trahir comme être fidèle, mentir comme être vrai. Tout se vaut, tous les chemins se valent. C'est la fin de toute responsabilité. D'ailleurs, même la fameuse phrase « tous les chemins se valent, l'important est de suivre un chemin qui a du cœur », même cette fameuse phrase ne peut pas s'empêcher de donner et d'inclure un jugement de valeur. Car si je comprends bien ce qu'elle dit, ça veut dire qu'un chemin où il n'y a pas de cœur n'est pas tout à fait aussi bien qu'un chemin où il y aurait du cœur. Ben ça, c'est un jugement de valeur. Et cela, ça veut dire que tous les chemins ne se valent pas, puisqu'il y en a un qui serait un peu meilleur que l'autre quand même. L'important, c'est que, ben oui, jugement de valeur. On ne peut pas gommer la légitimité de différencier les choses. Ce serait perdre toute capacité de jugement, de choix légitime et toute responsabilité. La Bible, elle, insiste tout au long sur la nécessité de faire la part des choses et de savoir distinguer vraiment ce qui doit l'être, tout en reconnaissant que la diversité est bonne, voulue par Dieu dans sa générosité. Le psaume 1 oppose le chemin des pécheurs et le chemin des justes. Et elle dit « heureux celui qui ne s'arrête pas justement sur le chemin des méchants, des pécheurs, qui ne s'assied pas pour discuter avec eux et faire leurs petites embrouilles ». Mais heureux celui qui, au lieu de faire cela, trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. On a là très clairement deux options de vie très distinctes. Se donner ses propres règles à soi-même, ou alors se conformer à l'instruction, à la sagesse que donne la loi de Dieu, que donne la parole que Dieu nous adresse. Et indiscutablement, ce n'est pas la même chose que d'adopter l'une ou l'autre attitude. Ce n'est pas la même attitude spirituelle. L'une met l'homme au centre, l'autre reconnaît Dieu comme Seigneur. Et ça, c'est une vraie différence. Et Jésus reprend cette différenciation qui était bien connue, bien acceptée par ses auditeurs. Les deux chemins dont il parle représentent deux attitudes fondamentales. L'une fait la part belle à l'homme, à ses désirs, à ses critères. Je fais ce qui me semble juste. J'agis selon mes désirs, selon mes envies. Je me donne mes propres critères de vie. Je ne rends compte à personne d'autre qu'à moi-même. C'est la pente naturelle de la condition humaine. Et c'est pourquoi Jésus décrit ce chemin, cette manière de vivre, comme le chemin large, le chemin que presque tout le monde emprunte naturellement. Chacun y développe aussi sa manière d'être. Ceux qui y marchent suivent les pensées de leur cœur. On y trouve une grande diversité de comportements. Certains sont très élevés, d'autres beaucoup plus égoïstes. Mais le point commun de ceux qui suivent cette trajectoire-là est qu'ils se donnent eux-mêmes leurs normes de conduite, indépendamment de Dieu. Marcher sur ce chemin large, c'est tenir finalement à sa propre indépendance. C'est piloter les choses en étant soi-même son propre pilote, soi-même le décideur de tout. C'est aussi un chemin où il est plus facile de se fondre dans l'air du temps. Jésus souligne que nombreux sont ceux qui montent sur ce chemin, sur cette manière de vivre. Et donc ça fait qu'on peut se fondre un petit peu dans la masse aussi. On est dans le mouvement, dans le move, dans ce qui se fait. C'est ce qu'illustre cette image du chemin large, du chemin spacieux, du chemin ouvert. Tout le monde s'y retrouve. C'est aussi souvent la voie de toutes les opinions possibles, du laxisme éthique, de la tolérance, de la permissivité sans garde-fou. Cela peut aussi faire partie de ce chemin-là. L'autre chemin est celui que Jésus invite à prendre, le chemin de ceux qui veulent être ses disciples. C'est le thème de tout ce sermon sur la montagne. Et Jésus ne cache pas qu'il y a une vraie différence entre ce chemin-là et celui que l'on voit partout autour. Il le décrit comme un chemin étroit, comme un chemin resserré. Autrement dit, les limites de ce chemin sont mieux marquées. Ceux qui y marchent acceptent que leur marche soit déterminée par ce que Dieu veut pour eux, par l'enseignement du Christ qu'il vient de donner. Ce chemin est étroit parce qu'il n'est pas ouvert à tout. Il est étroit parce qu'il demande une cohérence, parce qu'il ne permet pas une chose et son contraire, en contraste avec le chemin plus large de ceux qui vivent au gré de leurs envies, de leurs désirs, sans forcément avoir ce souci de cohérence, ou ce besoin, ou cette exigence de cohérence. Ce chemin est étroit aussi à cause des normes éthiques que l'on intègre de la Bible par le désir que l'on a de plaire à Dieu et de lui dire notre reconnaissance par des actes, par une vie conforme à ce qu'il aime. Ce chemin est étroit et non pas totalement ouvert, parce que structuré, parce qu'orienté vers une redevabilité fondamentale. On veut vivre en harmonie avec ce que Dieu aime, en harmonie avec ce que Dieu veut pour nous. Et cela oriente le chemin, il ne part pas dans toutes les largeurs possibles et imaginables. Il est enfin étroit, de cette magnifique étroitesse qu'est celle d'un amour choisi. D'un amour choisi qui n'embrasse pas tout indistinctement, mais qui veut rester fidèle à ce qu'il aime. D'un amour choisi qui oriente une vie, qui oriente des choix, qui fait dire non à ce qui trahirait cet amour, mais permet l'affermissement et l'expression d'un oui d'amour où l'on trouve sa joie, où l'on trouve sa force, où l'on trouve sa lumière. Il est étroit aussi, par distinction avec le chemin large que suivent la majorité de ceux qui vivent peut-être selon leurs propres critères, sans référence à Dieu. Et Jésus nous invite aussi, par ce contraste entre chemin étroit et chemin très large, à accepter de nous distinguer. Accepter d'être minoritaire, peut-être. Accepter de ne pas penser comme tout le monde et de le dire. et qu'on nous le fasse sentir peut-être. C'est ça aussi, marcher sur ce chemin plus étroit, mais qui a du sens. J'espère que cela ressort de ce que j'essaie de vous dire. Deux chemins. Alors, question, est-ce que ces deux chemins sont totalement séparés l'un de l'autre? On pourrait se représenter ces deux chemins en disant, voilà, il y a deux chemins qui prennent deux directions radicalement différentes, qui seront toujours à distance l'un de l'autre, chacun passant par des lieux spécifiques opposés à l'autre. Deux chemins qui s'ouvrent comme ça et qui s'éloignent l'un de l'autre. Que dire de cela? Il faut dire en effet que le chemin que nous propose Jésus doit nous distinguer. Jésus, dans le sermon sur la montagne, nous demande de renoncer à la colère, par exemple, de renoncer au ressentiment, de renoncer à la convoitise, de renoncer à l'infidélité. Ça veut dire que nous allons nous distinguer sur ce terrain, ne pas faire tout ce qui ressemblerait à ces choses auxquelles Jésus invite à renoncer. Jésus nous demande d'être reconnus pour notre droiture, d'être reconnus comme des personnes pour qui un oui est un oui, un non est un non. Et cela doit, bien sûr, nous écarter de toute pratique mensongère, chemin distinct. Jésus nous demande d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous ont fait du mal. Cela barre le chemin de toute violence, de toute vengeance. Jésus nous demande de veiller à ne pas faire de l'argent le trésor ou le but de notre vie. Cela nous empêchera de tout justifier au nom, ou de tout accepter au nom du simple profit. Donc oui, clairement, le chemin que Jésus nous propose doit à certains endroits ne pas toucher le chemin de ceux qui vivent selon d'autres normes, doit nous conduire à nous en écarter. Mais il y a plein d'autres endroits de la vie où nous sommes sur un terrain commun, absolument commun. Nous travaillons 8 heures par jour aux mêmes tâches que nos collègues. Nous sommes dans les mêmes bouchons, dans les mêmes galères de transport que tous les autres de la région parisienne. Nous regardons les mêmes matchs de foot et parfois les mêmes films. Nous baignons dans la même culture. Nous sommes appelés ensemble avec ceux qui nous entourent à certaines solidarités. Nous devons résoudre ensemble certaines situations sociétales ou professionnelles difficiles. Bien des lieux sont communs, bien des actions aussi. Autrement dit, les deux chemins vont se croiser aussi, vont s'interpénétrer aussi par endroits. Celui qui marchera sur le chemin que propose Jésus abordera ces situations en cohérence avec les orientations, avec les normes, avec les motivations que lui donne justement ce chemin qu'il fait sien, là où d'autres aborderont les mêmes situations avec d'autres orientations, d'autres motivations. Et il faudra développer alors le respect mutuel, l'intégrité personnelle, l'acceptation de l'autre et la fidélité à ce que nous sommes. Mais ne pensons donc pas ces deux chemins comme étant juste toujours séparés les uns des autres. Il nous faut apprendre à faire toutes les jonctions possibles qui sont celles de la vie, tout en persévérant dans l'optique qui est la nôtre, dans les motivations qui sont les nôtres, dans la vérité qui est de notre démarche. Marcher sur le chemin de Jésus, c'est tracer une ligne de cohérence au cœur même des préoccupations que nous partageons avec bien d'autres. J'ai parlé de deux chemins, de deux trajectoires. Maintenant, comment évaluer la valeur d'une trajectoire? Il y a ce qu'elle permet de découvrir, et il y a aussi ce vers quoi elle mène. Et Jésus nous invite à réfléchir maintenant à cette question des aboutissements. Certaines voies sont des impasses, d'autres voies sont des aboutissements. un pilote du Paris-Dakar qui découvre des paysages sublimes, mais qui, tellement pris par ces paysages, arrive à des centaines de kilomètres de la ligne d'arrivée, ce pilote sera éliminé. L'aboutissement sera une impasse pour lui. Un bateau qui s'aventure dans une zone magnifique, mais pleine de récifs, profitera un temps du paysage, mais s'expose à un naufrage irrémédiable. En toute chose, il faut considérer la fin, nous rappelle notre fameux Jean de La Fontaine. Et Jésus nous invite à avoir aussi ce discernement concernant les aboutissements, l'aboutissement de notre attitude spirituelle. Le chemin large, où l'on vit à sa façon sans se préoccuper spécialement de Dieu, ce chemin, nous dit Jésus, aboutit à la ruine spirituelle, aboutit au désastre éternel. Ailleurs, Jésus le dit avec d'autres mots, il dit on peut gagner le monde entier, on peut gagner le monde entier, mais perdre son âme, comme le pilote du Paris-Dakar qui a vu des magnifiques paysages, mais qui n'est juste pas arrivé là où il fallait arriver. On peut gagner le monde entier et perdre son âme. Ce qui veut dire que nos choix de vie ont des conséquences. Dieu nous a fait responsables et il nous traite ainsi. Nos choix de vie, de manière générale, ont des conséquences et nos choix de vie spirituelle ont des conséquences spirituelles et éternelles. Choisir le chemin que Jésus nous propose, c'est choisir la vie, nous dit le Seigneur. Et pour Jésus, quand il parle du chemin de la vie, pour lui, ça résonne bien plus loin que les 70 ou 80 ans de notre parcours terrestre. C'est la vie dans son aboutissement total, la vie dans son aboutissement éternel, la vie dans sa réalisation ultime, par-delà la mort, par-delà le jugement des vivants et des morts, par-delà l'éradication définitive du mal, que le Seigneur un jour réalisera, lorsque Dieu fera toute chose définitivement nouvelle, irradiée de sa présence et de sa gloire, pour une liberté magnifique, parce que nous serons enfin délivrés du mal, et pour une vie qui pourra se déployer dans toutes ses potentialités pour l'éternité. Le chemin étroit, dit Jésus, mène à la vie. Non pas à une vie nouvelle ou une vie différente, mais la vie, l'aboutissement voulu par le Dieu qui est source de la vie, qui nous la donne, qui nous la renouvelle et qui voudrait pour nous cette vie éternelle dans l'harmonie qu'il prépare pour nous. La vie, la vraie, au sens le plus plein des mots, celui qui a le Fils a la vie. Choisis donc la vie. Jésus est formel. Le chemin qu'il propose mène à la vie. Mais il est tout aussi formel de l'autre côté. Le chemin large et spacieux de la vie sans Dieu, de la vie à notre façon à nous, mène à la ruine spirituelle, au constat irrémédiable de la faillite totale, irréversible de son existence, lorsqu'on se découvrira privé de cette gloire de Dieu à tout jamais. Et il ne restera alors dans cette faillite éternelle que le remords d'être passé à côté, comme un concurrent éliminé d'une course pour cause de légèreté dans sa navigation, ou comme une épave définitivement échouée sur un rocher, faute d'avoir respecté l'itinéraire à suivre. J'aimerais que Jésus ait dit « Écoutez, c'est pas trop grave finalement les choix qu'on fait. Tous les chemins mène au même but. » Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Il parle de vie d'un côté, il parle de ruine, de perdition de l'autre. Et entre les deux, il y a la responsabilité de nos choix. Y compris de nos choix spirituels, que Jésus ne dilue pas, car elle est notre grandeur. Elle est notre dignité, cette responsabilité. Mais Jésus en fait une vraie responsabilité. Comment donc Jésus peut-il être aussi affirmatif et dire que le chemin qu'il propose est le chemin de la vie? N'est-ce pas prétentieux de sa part? Ne lui faudrait-il pas être un peu plus humble en disant que nous tâtonnons tous pour trouver vraiment le chemin de la vie, le vrai chemin des choses? Ce qui qualifie Jésus pour parler ainsi, c'est qu'il n'est pas comme nous, du côté de ceux qui tâtonnent, qui cherchent. Mais ce qui qualifie Jésus, c'est que lui vient du Père. Lui vient du Dieu unique, qui sait, qui possède les clés et qui vient vers nous précisément pour nous conduire. Il est du côté de la vie pleine et entière parce qu'il en possède lui-même les clés. Et cela, il l'a prouvé avec puissance en ressuscitant des morts, en triomphant de la mort qu'il a accepté de subir pour nous. C'est cela qui qualifie Jésus. Il n'est pas du côté de ceux qui cherchent comme nous. Il est du côté de ceux qui peuvent nous conduire et qui vient justement pour nous conduire. Quand le capitaine d'un gros bateau fait appel au service d'un remorqueur pour le conduire dans un chenal étroit et un petit peu délicat, il ne demande pas au capitaine du remorqueur d'être humble, de ne surtout pas être trop affirmatif, sous peine d'être présomptueux. Au contraire, il dit, mais écoute, toi tu connais le chenal, toi tu sais par où il faut passer, toi tu sais ce qu'il faut éviter. Je veux vraiment que tu me diriges, je veux que tu me conduises à bon port. Et je veux que tu me dises quel est le bon chemin, parce que tu le connais. Jésus est totalement qualifié pour nous dire ce qui, dans la perspective de Dieu, est le chemin de la vie, ou ce qui, au contraire, conduirait au naufrage. Il est totalement qualifié. Il l'a attesté par sa résurrection d'entre les morts. Et la question n'est pas sa qualification à lui. La question, c'est notre décision à nous de l'écouter, de lui faire confiance. Et c'est ici que nous retrouvons la dernière image que Jésus emploie, celle de la porte à franchir, avec l'invitation qu'il nous adresse, « Entrez par la porte étroite ». Comment se visualiser ces choses? Vous savez, à l'entrée des villes qui étaient entourées de grands murs, il y avait des portes. Certaines de ces portes étaient larges, ouvertes aux foules, impressionnantes d'ouverture. Quand on voulait que tout le monde puisse entrer dans la ville, on ouvrait les grandes portes, c'était vraiment l'avenue pour entrer. Et on voit encore de ces grandes portes dans certaines villes d'Orient, des portes magnifiques souvent d'ailleurs, impressionnantes d'ouverture. Mais en général, à côté de ces portes de grands passages, il y en avait aussi d'autres, plus étroites, où une seule personne pouvait passer. Une seule personne à la fois pouvait passer par cette porte-là. Quand la sécurité l'imposait, on pouvait fermer les grandes portes et faire rentrer les gens un par un par la petite porte, la porte étroite, sous l'œil attentif, soit des responsables de sécurité ou des agents chargés de récolter les taxes. Et c'est cette image que Jésus reprend en parlant de la porte étroite. Suivre le chemin de Monsieur Tout-le-Monde, de la vie sans Dieu, est un chemin largement ouvert. La route, la porte, tout se confond, tant le passage est large, indifférencié. Mais prendre le chemin de la vie, le chemin de la foi, que Jésus nous propose est une décision que chacun doit prendre, que chacun doit prendre. Et parce que chacun doit la prendre, cela, ça relève de la porte étroite où chacun passe pour lui-même, de lui-même, à son tour. C'est du un par un. Ni mon père, ni ma mère, ni mes amis, ni ceux qui prient pour moi ne peuvent me prendre sous leur responsabilité pour entrer sur le chemin de la foi, pour me faire passer sur ce chemin de la foi. C'est à moi de me présenter. C'est à moi de faire la démarche. C'est à moi de décider que je vais passer par la porte, que je vais m'engager sur ce chemin. Et Jésus, en parlant de cette porte étroite, souligne ici notre responsabilité et notre décision personnelle pour ce qui concerne la foi. Entrez par la porte étroite. Que représente concrètement, en ce qui nous concerne aujourd'hui, ce passage par la porte étroite, selon l'image de Jésus? Cela correspond à un moment où il nous faut vraiment nous présenter devant Dieu personnellement pour lui dire notre désir de changer de chemin, pour lui dire notre désir de changer notre manière d'envisager la trajectoire de notre vie. La porte est étroite, on doit se présenter chacun personnellement. Elle est étroite, il faut aussi accepter de renoncer d'une certaine façon à être notre propre maître et dire à Dieu, maintenant c'est toi qui vas piloter ma vie. Je veux que ce soit toi qui pilote ma vie désormais. La porte est étroite. C'est aussi un passage où nous ne pouvons pas fanfaronner, nous ne pouvons pas avancer de léger. C'est un moment de vérité où nous devons reconnaître, confesser que jusqu'ici nous avons vécu à notre façon, en laissant Dieu à l'extérieur ou sur les marges. Et quand on prend conscience de cela, on n'est pas vraiment fier de soi. Et quand on prend conscience devant Dieu qu'on l'a laissé aux marges de notre vie, c'est un moment quand même de vérité qui compte. Pour certains, passer par cette porte, c'est être chargé d'un lourd fardeau de culpabilité, fardeau d'une vie qui pèse, dont on ne voit vraiment ni le sens ni l'aboutissement. Et passer par cette porte voudra dire déposer ce fardeau devant Dieu, lui dire que nous ne pouvons plus le porter, ce fardeau, que nous avons besoin de Dieu pour nous en libérer. Un moment important donc, un moment important dans notre vie, un vrai moment de vérité. Mais passer par cette porte ne sera jamais un grand moment de solitude. C'est un moment de vérité, oui, mais pas un moment de solitude, ni de contrition mortifère. Car au-delà de cette porte, Dieu nous réserve son accueil. Dieu nous réserve son accueil. Jésus n'a cessé de dire, d'enseigner, de manifester que Dieu est accueil pour chacun de ceux qui viennent à lui. « Venez à moi, disait-il, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Si nous confessons nos péchés, nous dit aussi la Bible, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de tout mal. « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, dit Jacques, l'apôtre Jacques, et Dieu vous relèvera. » Car Dieu résiste, oui, à ceux qui sont orgueilleux, mais il est plein de grâce pour ceux qui sont humbles. À ceux qui venaient à lui fatigués et chargés, Jésus a toujours apporté l'accueil de Dieu, l'amour de Dieu. Et puis il disait, « Lève-toi et marche. Et marche, la vie est devant toi. » Jésus a tout fait pour que la porte étroite où il nous faut venir devant Dieu personnellement pour un moment de vérité, pour que cette porte étroite devienne la porte du salut, devienne la porte du pardon, devienne la porte d'une vie nouvelle, devienne la porte de l'accueil de Dieu pour nous. Jésus a tout fait pour que cela soit possible. Il est mort pour nos péchés, nous l'avons lu tout à l'heure. Il a pris sur lui la condamnation que méritaient nos fautes aux yeux de Dieu. C'est ce qu'il a fait à la croix. Mais il l'a fait pour nous offrir gratuitement le pardon, pour nous offrir par pure grâce, par pur cadeau, la réconciliation avec Dieu et le plein accueil auprès de lui. Et c'est pourquoi Jésus a pu dire « Je suis la porte ». Je suis cette porte où vous pouvez entrer. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, dit le Seigneur Jésus. Et entrer par Jésus, c'est franchir cette porte en disant à Dieu, « Oui, je viens devant toi avec la vérité de ma vie, mais j'ai confiance en ton accueil que Jésus me garantit par sa mort sur la croix. J'accepte le pardon que tu m'offres. J'accepte d'être accepté tel que je suis. Et je veux désormais marcher sur le chemin de la vie qui continue avec le Seigneur au cœur de ma vie, de l'autre côté de cette porte du salut. Entrez par la porte étroite, nous dit Jésus. C'est une invitation pour nous, aujourd'hui encore. Et je vous encourage, si vous n'avez pas encore fait cette démarche, à bien considérer l'appel que Jésus vous adresse et à y répondre positivement, personnellement, dans votre cœur. Vous ne le regretterez jamais. Et pour vous, pour nous qui avons déjà fait cette démarche, réaffirmons dans notre cœur notre désir, notre détermination, notre joie à marcher sur ce chemin que Jésus nous a ouvert et où il nous accompagne. Entrons par la porte étroite. Soyons de ceux qui trouvent ce chemin qui mène à la vie et marchons-y avec joie, avec reconnaissance. Amen.